le titre du message ce matin, ça va être « Semer et récolter ». Alors, on a vu un tas de cantiques qui nous pointent vers ça, là. Alors, si vous vous en souvenez bien, le dernier message, c'est-à-dire celui du 3 mai, je vous disais qu'on examinerait ce qu'il fallait considérer pour être en mesure de porter du fruit lorsque la graine est tombée dans une bonne terre. Alors, je vous invite à tourner tout de suite dans le livre de Paul aux Galates. Galates, chapitre 6, le verset 7. Alors, on a ici une partie très importante des Écritures, Galates 6, verset 7, que tout le monde devrait me connaître. Autant les croyants comme les non-croyants. Pour la simple et bonne raison que le message s'adresse aux deux catégories de gens. Le message ici, souvent, lorsqu'on lit les Écritures, il y a des exhortations qui sont données pour des croyants, pour des chrétiens, mais le texte qu'on va lire ici ce matin touche les deux catégories de gens. Alors, on a dans ce qu'on va lire un avertissement et un principe. Un avertissement et un principe à respecter. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse toute la gang suivre ça, puis voir ce que le Seigneur a à nous enseigner ici. Alors, on va prier. Seigneur grand Dieu, on est vraiment heureux ce matin encore d'avoir le privilège en toute liberté d'ouvrir ta sainte parole et te laisser nous que parler. Alors, on te prie que tu puisses disposer de chacun de nos cœurs, que tu puisses diriger toutes choses, Seigneur, afin qu'on puisse bien comprendre et mettre en pratique ce que nous allons entendre. Et c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alors, Galates, chapitre 6, verset 7. C'est écrit, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors, comme je vous disais tantôt, ici, on a un avertissement et un principe. Décembre 1968, mission Apollo 8. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent que de ça, là, c'était quand même quelques années. Là. Le but de cette mission-là, c'était d'envoyer un véhicule spatial habité à quitter l'orbite terrestre, se mettre en orbite autour de la Lune, faire 10 fois le tour de la Lune, puis revenir sur la Terre. Ça, c'était en décembre 1968. Cette mission-là a été réussie parfaitement. 7 mois plus tard, le 20 juillet 1969, que vous vous en souvenez? Ben moi, j'avais 15 ans, en tout cas, je m'en souviens, comme si c'était hier. Neil Armstrong marchait sur la Lune. La capsule qui avait été éjectée de la fusée Apollo 8 filait à 25 000 milles à l'heure. Ça, c'est un petit peu plus vite que les motos qui passent ici en face. L'orbite de la Lune, elle, va à 2 300 milles à l'heure. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a une grosse différence au niveau de la vitesse. Alors, imaginez la gymnastique mathématique pour envoyer quelque chose qui fonce à 25 000 milles à l'heure vers une cible qui, elle, va à 2 300 milles à l'heure. Ça prend un génie mathématique puis des scientifiques hors pair là, qui sont capables de calculer la vitesse puis tout ça pour que finalement, on puisse entrer dans l'orbite de la Lune. Alors, c'est que ça prend toutes sortes de choses. Il n'y a aucune place, c'est qu'à l'erreur ici. Alors, on peut saluer le génie des mes scientifiques puis des mathématiciens à la NASA. Mais tout ça aurait été impossible parce que l'univers fonctionne sous des lois fixes, fondamentales. Rien dans tout ça n'est le fruit du hasard. Même si les mathématiciens sont vraiment forts, il y a des lois physiques qui font en sorte que c'est réalisable parce qu'on les connaît. Alors que la Lune, elle ne se met pas à ralentir ou à accélérer sa vitesse. Elle va toujours à la même que vitesse. Ça, c'est une loi que les êtres humains savent. Ils savent à quelle vitesse qu'elle va et ça demeure inchangeable. C'est de même toujours. Les forces de la gravité ne changent pas non plus. Alors, la raison pour laquelle ils ont pu réussir cet exploit-là, c'est parce que tout dans la création fonctionne à partir de ces règles et ces lois-là qui sont fixes, qui sont immuables et qui ne changent pas. On sait tout, puis on les connaît, ces lois physiques-là. On sait qu'elles ne varient pas puis qu'elles ne varieront jamais. On sait tout que la Terre, ça prend combien de temps pour faire un tour complet sur elle-même? 24 heures. Ce qui nous donne les jours et les nuits. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, point 25. C'est pour ça qu'on a, à chaque 4 ans, une année qui dure 366 jours. Puis ça, on l'a mis à la fin du mois de février, le 29 février. À chaque fois, c'est le même. À chaque 4 ans, c'est le même. Il n'y a rien, absolument rien qui change. La Lune tourne autour de la Terre pendant 29 jours. C'est immuable, ça ne change pas. Ce sont des lois physiques. Alors, c'est la même chose en ce qui regarde les lois morales. Elles sont fixes et absolues. Puis penser autrement, c'est contredire la nature du Créateur, puis de sa création. Dieu a fixé des lois physiques et morales qui gèrent le côté physique et le côté spirituel. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir donné des indications pour l'aspect spirituel des vies des êtres humains. Parce que si on n'aurait pas ça, on piocherait à gauche puis à droite, puis on chercherait puis on ne trouvera pas. Mais Dieu a mis des lois autant physiques que morales. Puis dans le texte qu'on a lu, on a ici une loi qui est morale. Galates 6, 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est un principe qui est immuable, qui ne changera jamais. Les agriculteurs comprennent ça très bien. Je sème des carottes, je vais récolter des carottes. C'est simple. Tout le monde comprend ça. Alors, Paul ici, il veut faire le point à savoir que c'est une réalité qui est aussi vraie au niveau spirituel. Galates 6 encore. Celui 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je vais vous le répéter, pas juste une fois, là, ce verset-là. C'est le principe, c'est la loi morale que Dieu veut que l'on comprenne, que l'on saisisse, puis que l'on s'accapare. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, on ne doit pas penser ou même ignorer ce principe-là. Cette loi-là ne changera jamais et personne ne peut la contourner. Personne. Autant les incroyants comme les croyants. C'est pour ça tantôt que je vous disais que c'est un texte ici qui touche tous les êtres humains, qui croient en Dieu ou qui n'y croient pas. Alors, ce que Paul explique aux croyants galates ici, puis à nous-mêmes aussi, là, c'est que maintenant que nous sommes au Seigneur, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur, comme leur Seigneur puis leur Sauveur. Maintenant que nous sommes à lui, maintenant que nous avons demandé au Seigneur de nous sauver, qu'on a reçu le Saint-Esprit, si on marche dans l'Esprit, on va réaliser le fruit de l'Esprit. Jusqu'à date, c'est pas dur à comprendre. Vous plantez marchant dans l'Esprit, vous allez récolter ses vertus. Regardez ce qu'on lit dans Galates 5, 22. Bon, c'est qu'on n'est pas loin du texte de mes tantôt. Galates 5, 22, on lit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Ça, c'est ce qu'on récolte lorsqu'on sème par l'Esprit. Alors, on plante, marchant dans l'Esprit, on va récolter les vertus du Saint-Esprit. D'un autre côté, Galates 5, verset 19, nous décrit les conséquences de la marche de la chair. Galates 5, 19, on lit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. » Est-ce qu'on voit ça des fois parmi les chrétiens? Ce qui cause des divisions, souvent dans des églises, là, c'est tout relié à ça, ça. C'est des œuvres de la chair qu'on a laissé prendre place dans nos vies. Alors, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Évidemment, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, eux vont hériter du royaume que de Dieu. Sauf que s'ils marchent de cette façon-là, ils vont être privés de beaucoup de bénédictions. Alors, dans cette portion du livre aux Galates, Paul explique comment vivre la vie chrétienne. On a deux options, et uniquement deux. On peut soit marcher dans l'Esprit et en récolter les fruits, ou on peut marcher dans la chair et en récolter les fruits. 1 plus 1 égale 2. C'est. Jusqu'à date, là, s'il y en a qui ne me comprennent pas, qu'elle la main, je vais vous l'expliquer comme il faut. Il faut que ça soit clair, là, ce que je dis là. Alors ici, on a un avertissement. Ce que vous allez semer, c'est ce que vous allez récolter et ne vous y trompez pas. C'est un avertissement sérieux et important qu'on a ici. Dans Philippiens 2, 13, on lit que ceci. C'est écrit, « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alors, l'Esprit de Dieu produit dans l'être humain le vouloir et le faire. C'est Dieu qui va agir dans le croyant pour aligner nos désirs avec les siens, puis nous donner la force d'agir pour sa gloire. Toutefois, si Dieu produit le vouloir et le faire, la Bible encourage l'homme à se soumettre et à coopérer avec l'action du Saint-Esprit dans sa vie. C'est ça qu'on a lu tantôt dans Galates 6, 8, là. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Et c'est vers ça qu'on est appelé à aller. Moissonner selon l'Esprit. Alors, comme croyants, on a, le privilège d'être dirigé, d'être poussé par Dieu, mais on a également la responsabilité d'agir dans ce sens-là. Même si c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, si moi je reste assis, je sais ce que Dieu me demande, mais que je ne le fais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me tromper moi-même. Et ce que la Bible dit, c'est « ne vous y trompez pas ». La plupart des gens, incluant même les croyants, se trompent eux-mêmes à propos des conséquences de leur conduite. Puis là, suivez-moi comme il faut. Il y en a beaucoup comme croyants qui se disent que puisqu'ils ont été sauvés par grâce, qu'ils ont été pardonnés, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ne peuvent pas perdre leur salut, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'ils ne risquent pas tellement d'être pénalisés s'ils dérapent, s'ils dérogent du chemin. Paul les avertit, ne vous y trompez pas, parce que c'est exactement ce que vous faites si vous pensez de cette manière-là. Moi, je suis chrétien, finalement. Il n'y a rien qui peut m'enlever le ciel, alors je peux continuer à vivre comme je veux. Erreur. Grave erreur, et c'est surtout le fait que vous êtes en train de vous tromper vous-même. Paul y avait déjà averti les Galates plus qu'une fois. Dans Galates 3:1, Paul y dit aux Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous aux yeux, je viens de sauter une page, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Galates 3:3, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Vous avez connu le salut, vous avez été éclairé par le Saint-Esprit, et maintenant que vous avez tout ça, ben finalement, on va continuer à vivre comme on vivait avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ou je vais continuer à faire ce que mon voisin qui ne connaît pas le Seigneur, je vais continuer à vivre comme lui vivait. Je vais suivre son exemple. Alors que ça devrait être le contraire. L'inconverti devrait avoir un exemple à suivre en regardant un chrétien. C'est assez facile de se tromper. De se tromper soi-même. 1 Corinthiens 3, 18 dit « Que nul ne s'abuse lui-même. » Que nul ne s'abuse lui-même. Ça veut donc dire qu'on est capable de le faire. On est assez bon pour s'abuser et se tromper soi-même. On a tout ce qu'il faut, même comme croyant, pour faire ça. Jérémie 17, verset 9, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » Bien souvent, on n'est même pas capable de connaître ce qui est dans le fond de notre propre cœur. On n'est même pas capable de s'imaginer que dans telle situation, on pourra faire les plus belles stupidités que les êtres humains sont toujours capables que de faire. Alors, notre cœur est arrogant et il peut nous tromper. Dans Jacques 1, 22, on lit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alors, Jacques nous dit que si on pense juste parce qu'on connaît que la Bible, que c'est assez, bien, Jacques nous dit que si on ne la met pas en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On se trompe nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. Jacques 1, 26 nous dit aussi que de ne pas tenir sa langue en bride, brider, ça veut dire contenir ou empêcher, freiner, retenir. Alors, si on ne retient pas, on ne freine pas notre langue, on se trompe. On trompe notre cœur. Regardez ce qu'on lit dans Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. En trompant son cœur. Se tromper nous-mêmes, c'est un problème qui nous guette toute la gang. On est sauvé, on est sous la grâce, le Seigneur ne nous laissera jamais. Donc, il ne peut pas vraiment avoir de conséquences sérieuses si je marche dans la chair. La tromperie, c'est là qu'elle est. C'est également aussi facile d'être trompé par quelqu'un d'autre. On est habile pour se tromper soi-même, pour se convaincre que oh, ce que je fais là, ce n'est pas si grave que ça. On est champion pour jamais faire ça. Mais imaginez que la tromperie, elle ne nous guette pas seulement de l'intérieur, mais il y a aussi quelqu'un de l'extérieur qui est capable de nous tromper. Savez-vous de qui je parle? Satan lui-même. Dans Apocalypse 12, verset 9, je vais juste vous lire un mes passages qui nous parle de lui. Apocalypse 12, 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité dans la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Alors, celui qui séduit toute la terre. On est capable de se séduire nous-mêmes et en plus, il y a quelqu'un de l'extérieur qui est assez habile pour le faire lui aussi. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Si vous voulez tourner là. 1 Corinthiens 6, verset 9. On lit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, on peut se tromper à propos de ceux qui sont de véritables croyants. Il y en a qui vont nous dire qu'ils sont croyants, mais il n'y a rien qui nous démontre qu'ils le sont. C'est facile aujourd'hui, en 2026, de dire « Moi, je suis chrétien. Ben oui, je vois ça à l'église à Saint-Just tout le temps. » C'est facile de dire ça. Je connais des gens, je ne parle pas d'ici, là, mais je connais beaucoup de jeunes, en plus, c'est ça qui est plate. Ce sont des jeunes qui se disent croyants, qui vont dans des églises, puis quand tu les regardes aller, là, aucune distinction avec ceux qui sont dans le monde. Aucune. Les gens du monde fument de la dope. Ces soi-disant chrétiens-là fument de la dope. C'est quoi, là? On reconnaît un arbre à ses fruits. J'ai pas vu de fruits. Je suis pas en mesure de pouvoir trancher si tu connais le Seigneur, oui ou non. Mais donne-moi des indices. J'ai pas à juger parce qu'il me manque trop de données. Je suis pas capable de me rendre dans le fond du cœur d'un être humain. Mais les seuls outils que j'ai pour être en mesure de comprendre, c'est ce que je vois. Si je ne vois pas, je suis tout mêlé. Je suis assez mêlé que je suis obligé de me demander, « Y connais-tu vraiment le Seigneur? » C'est plate, ça. Quand tu es obligé de te questionner à ce niveau-là, « Y connais-tu vraiment le Seigneur? » Alors que celui qui connaît le Seigneur, tout le monde dans son entourage devrait dire, « Oh, lui, là, il est vraiment à part. » Alors, on peut être séduit, se tromper soi-même en choisissant de mauvaises compagnies. Dans 1 Corinthiens 15, 33, on lit ceci. « Ne vous y trompez pas, encore une fois. Faites-vous pas des peurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui gravitent autour de moi, puis que je laisse graviter autour de moi, ça peut corrompre les bonnes mœurs. On a à s'examiner, franchement, chacun de nous. La séduction peut même provenir de l'intérieur de l'Église par des faux docteurs. Romains 16, je vais vous lire Romains 16, verset 17. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. S'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, qui vous contredit ce que les Écritures disent, qu'est-ce que la Bible dit? Ne tenez-vous pas avec eux autres, parce qu'ils vont être une mauvaise influence. C'est pas dur à comprendre, cela, là, hein? Alors, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Se moquer de Dieu, c'est marcher sans tenir compte de ce qu'il dit. Et penser pouvoir s'en sortir quand même le monde est rempli, penser s'en sortir quand même. Le monde est rempli de gens qui se moquent de Dieu comme si Dieu n'existait pas. Et savez-vous quoi? On vit dans cette culture-là. Nous vivons dans une culture où les gens disent « Dieu n'existe pas ». Quel est le danger? C'est qu'on se mette à les croire. Puis si on les croit, on se trompe et on se fait tromper. Parce que Dieu existe. Et il va marcher selon sa loi qui dit que tu vas récolter ce que tu vas semer. Le que tolérer, c'est le devenir, oui. Si tu tolères une chose, bien souvent, tu vas devenir d'accord. Tu vas devenir d'accord et tu vas dire, ben oui, ça a quasiment de l'allure. Vous savez, c'est subtil. On a affaire à un ennemi qui est subtil, qui est brillant, qui sait comment faire pour faire tomber les véritables croyants. Donc, c'est dans cette culture-là que nous vivons, alors il faut agir avec prudence comme chrétien. Maintenant, ayant dit ça, voilà que la loi, que je vais vous répéter encore, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça n'a pas besoin d'explication, mais Paul y en donne une pareille. On l'a vu, on a deux choix comme croyants. On marche selon l'esprit ou on marche selon la chair. C'est les deux seuls choix qu'on a. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, tu marches selon l'esprit. Ou tu as accepté accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu son esprit, mais tu marches selon la chair. Parce que ça se fait, ça. Il y a mes éloignes tantôt. Là. Alors, ne pensons pas qu'on peut marcher dans la chair comme croyant, puis ne pas en payer le prix. Les incroyants payent-tu le prix, eux autres? Oui. Alors, si les incroyants payent le prix des conséquences de la marche dans la chair, pourquoi ça serait différent avec le croyant? Pourquoi ça serait différent? Tu récoltes ce que tu sèmes. Ça fait partie de la loi, ça. Tu vas récolter ce que tu as semé, ça a toujours été comme ça, et ça va toujours être comme ça. L'Ancien Testament, comme le Nouveau, sont pleins d'exemples qui nous le démontrent. Regardez ce qu'on lit dans Romains 1. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Alors, ce passage-là nous décrit les moqueries contre Dieu qui déclenche la colère que de Dieu. La colère de Dieu peut se manifester de plusieurs façons. On le voit à travers tous ceux qui vont aller en enfer, c'est qu'ils n'ont pas voulu tenir compte de ce que Dieu disait. Ils ont refusé le sacrifice ultime de son Fils. Alors, à cet acte-là, il y a un prix à payer. Là, l'enfer, la colère que de Dieu. Sa colère, on la lit aussi dans le livre de l'Apocalypse, où il va y avoir toutes sortes de catastrophes et de désastres naturels. Puis il ne faut pas se surprendre parce que notre monde déchu est sujet à ces sortes de désastres et de cataclysmes. Vous savez, le grand tsunami qu'il y a eu en 2001, si je me souviens bien, là, il y a eu des milliers puis des milliers de morts. J'ai comme fait un lien, là. Ça, c'est des gens, dans cette partie du monde-là, les gens ne veulent rien savoir de Dieu. Alors Dieu, des fois, il envoie un signe pour réveiller, choquer les gens, pour les réveiller. Enfin, Dieu peut agir comme il veut. Il y a aussi cette colère qui est reliée à cette loi-là. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. J'espère que vous allez avoir compris le but du message. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Si tu sèmes en fonction d'une moquerie envers Dieu, tu vas récolter sa colère. C'est un principe divin, puis si on croit pouvoir y échapper, on se moque de Dieu. Se moquer de Dieu, là, c'est dangereux. Extrêmement dangereux. À plus forte raison si on est croyant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a des commerciaux aujourd'hui, il y a même des mouvements sociaux, entre autres Greenpeace. Eux, ils ont en quelque sorte reconnu cette règle-là, mais d'un niveau, je dirais, c'est une reconnaissance païenne d'un principe divin. Eux autres, ils disent, on doit respecter mère nature. Mais c'est pas fou ce qu'ils disent, par exemple. Mais eux autres, c'est pas Dieu c'est pas envers Dieu qu'ils vont faire allusion, c'est envers la nature, mère nature, comme si mère nature, c'est elle qui rêve à tout. Mais il y a une chose qui est claire, par exemple, c'est que continuons d'agir comme on agit là, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, toutes sortes de choses qu'on fait, les êtres humains, fait en sorte qu'on va récolter ce qu'on a semé. Il y a des places dans le monde entier où ils ne sont même plus capables de sortir en pleine heure du midi s'ils n'ont pas de masque d'en face. Je ne parle pas de M. François, là. Mais s'ils n'ont pas de masque d'en face, ils ne peuvent pas respirer. L'air est vicié. Alors, vous comprenez que si tu pollues, il y a un prix à me payer, là. Alors... Il ne faut pas penser que si on pêche, si on ne tient pas compte de ce que Dieu dit, qu'il n'y aura pas de risque, qu'il n'y aura pas de punition. Ça, c'est se moquer que de Dieu si on pense comme ça. Job 4:8, on lit, « Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Ça, c'est Job qui disait ça. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Proverbe 11:8. Osée 8:5, on lit, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils vont moissonner quoi? La tempête. » C'est un principe. C'est un principe. Le fruit d'une vie est déterminé parce que cette vie-là a planté. Le caractère d'un homme puis sa condition, c'est la moisson de ses habitudes, ce qu'il fait jour après jour. Si c'est un colérique puis qu'il laisse aller la colère dans sa vie, qui cause tout, qui frappe tout, puis que c'est un homme qui est marié avec des enfants, qu'est-ce qui va arriver? la femme voit et les enfants voient. Et tu vas récolter ce que tu as semé. Sois pas surpris si tes enfants sont colériques. Ils ont vu ça toute leur vie. Comprenez-vous le lien qu'il faut faire, là? Évidemment, Dieu, dans sa grâce, est capable de faire en sorte que, moyennant une conversion réelle, les caractères peuvent changer. Les vies peuvent changer. Tu étais voleur, tu ne voles plus. Tu étais menteur, tu ne mens plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu t'habiter et tu le laisses travailler dans ta vie. Mais si tu ne le laisses pas travailler, il y a des grosses chances que ce soit les fruits de l'esprit, les fruits de la chair qui vont prendre le dessus. On a deux options, uniquement deux. C'est ça. Alors, je vous disais que le caractère d'un homme et sa condition, c'est la moisson de ses habitudes. Si vous laissez un jeune enfant faire tout ce qu'il veut, j'ai-tu besoin de vous expliquer ce qui va arriver plus tard? Non, hein? De là, l'importance de guider et d'enseigner les enfants et les petits-enfants. Puis là, je m'adresse aux parents ici, ceux qui en ont encore des jeunes enfants. On a dans la parole de Dieu l'importance de les guider, de les élever, de les enseigner. Dans Proverbes 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Il n'y a rien de plus important que ça. Pour les vieux, on est encore parents, mais on a moins d'impact. Mais pour ceux qui ont des jeunes enfants, puis là je m'adresse à les jeunes familles, vous avez un impact que vous ignorez. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que vous pouvez laisser. Là, vous dites, « Ouais, mais ça fait des années, puis je ne vois pas. » Que vous allez voir tantôt, il y a un verset qui va nous éclairer tout ça. Il ne faut pas agir comme des enfants et dire, « Hey, j'ai semé des carottes à matin, j'en récolte pas à soir. » C'est assez normal, ça. Il y a un temps qu'il faut qu'il passe. Puis des fois, le temps est plus long qu'on pense. Mais je vous dis, laissez l'impact, et l'impact, vous allez l'avoir plus tard. Alors, pour les non-croyants, tout ce qu'ils peuvent semer, c'est le péché. Et selon le principe de la loi, ils moissonnent en conséquence. Ça prend juste le miracle de la nouvelle naissance pour nous sortir de cet esclavage-là. Et même comme croyant, il faut être conscient qu'il faut reconnaître qu'on est encore sujet à l'insuccès puis à la marche dans la chair, ce qui, malheureusement, va amener comme moisson les fruits de la chair. Nombre 32, 23 nous dit que « Si vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Ça, c'est le principe de semer et récolter. Proverbe 90, verset 8 nous dit « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Nous, on peut se tromper nous-mêmes, mais on ne trompe pas Dieu. On se moque peut-être de lui, mais on n'y a rien caché. Romains 2, 9 nous dit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal ». Tu fais le mal, tu vas récolter tribulation et angoisse. Ça, c'est la façon dont la colère de Dieu opère dans le monde. La loi de Dieu est en tout point identique à sa nature, c'est-à-dire elle est immuable et inchangeable. Là, vous dites peut-être, « Wow, arrête un peu, là, tu viens de nous dire un paquet là, d'affaires que si je sème... Si je sème selon la chair, je vais récolter les fruits de la chair. Il me semble que j'ai accepté le Seigneur, oui. J'ai accepté le pardon, j'ai accepté la grâce que le Seigneur il m'a donnée. j'ai accepté sa miséricorde. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça, là? Bien, moi, je dis oui à tout ça. Oui, vous avez accepté Seigneur. Vous avez reçu son esprit, comme on a vu tantôt. Vous avez goûté à la grâce, à la miséricorde. À la conversion, quand on s'est converti, Dieu il a comme intercepté cette loi-là. La loi qui dit, tu vas récolter ce que tu as semé. Dieu l'a intercepté, mais il ne l'a pas annulé. Il a intercepté cette loi-là, il nous a donné une nouvelle vie. Ce qui fait que maintenant, on est capable de marcher par et pour l'Esprit Saint. Alors, on peut maintenant récolter ce que Christ a semé dans la vie de tous les jours. Mais le principe demeure toujours vrai. Si on marche par la chair, on récolte par la chair. Si on marche par l'esprit, on récoltera en conséquence. Me trouvez-vous tannant? Il faut répéter ce principe-là. Il ne faut jamais que ce principe-là sorte de notre tête. Tu vas récolter ce que tu as semé. Pensez-y comme il faut, là. Un croyant, ça n'empêchera pas un chrétien qui va se battre avec un autre d'avoir un œil au beurre noir ou bien une dent cassée. Un chrétien qui conduit en fou sa route, ça ne l'empêchera pas d'avoir soit un accident ou de pogner un ticket, même si tu es croyant. Un chrétien qui tombe dans le péché de l'immoralité fait en sorte que, un, il va perdre la confiance de son conjoint ou de sa conjointe et il risque d'avoir un paquet de maladies reliées à ça. Même si tu es croyant. Pourquoi? Parce que tu vas récolter ce que tu as semé. Là, vous allez dire, t'es tannant, là. C'est ça que la Bible dit. Et je vais souligner ce principe élémentaire-là de la vie chrétienne. Même si on a été pardonné, qu'on s'en va au ciel, tant qu'on va être dans ce monde-là, cette loi-là ne changera jamais. Tu vas semer, tu vas récolter ce que tu as semé. David, dans l'Ancien Testament, a vu les conséquences de son péché. Lorsque Nathan est allé le voir, puis David a reconnu qu'il avait péché avec Bathsheba, puis mais tout ça, Nathan a dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, mais l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. » Alors, les conséquences éternelles ont été réglées, pas les temporaires. La chair a toujours était le point de départ du péché. Ça marche toujours comme ça. Le seul pouvoir, et je vous le dis là, le seul pouvoir que Satan a sur nous, c'est un pouvoir de suggestion. Il peut juste nous suggérer de pécher. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Quand on parle de combat, ça implique inévitablement une lutte, une dispute, un conflit, une bataille contre les suggestions du diable. Lui, il va vous suggérer constamment de désobéir à Dieu. Alors, la vie chrétienne implique cette sorte de combat-là, un combat contre la chair. Et c'est un combat qui est continuel. Continuel. Là, vous allez dire, tabarnouche. C'est pas trop facile, pas trop pratique être chrétien. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ceux qui voulaient le suivre? Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, puis qui me suive. C'est facile être chrétien? Très difficile. Pourquoi? Parce qu'on marche à contre-courant. Si vous suivez le courant, vous vous faites comme les poissons morts. Les autres, ils ne nagent plus contre le courant, ils se laissent aller dans le courant. On achève, là. Jacques 1, 14. Jacques chapitre 1, verset 14. Ça, c'est un verset que je tiens à souligner. Verset 14 jusqu'à 16. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas. Et à qui est-ce que Jacques s'adresse ici? Mes frères bien-aimés. Jacques est en train de parler à des croyants. Faites-vous pas avoir, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Rappelez-vous de ceci, ce que vous allez semer, c'est ça que vous allez récolter. Je vais vous amener juste un petit exemple, j'en ai déjà parlé. J'ai connu personnellement un croyant à Bécomo qui avait de la difficulté, lui, avec l'alcool puis la colère. Puis, là, vous allez dire, « Ouais, mais c'était-tu un chrétien? » J'ai passé tellement de temps avec ce gars-là que je peux vous affirmer que ce gars-là connaissait le Seigneur. Il y avait des luttes incroyables. Ce gars-là, là, lorsqu'il était tout petit, là, ses parents l'attachaient avec une corde comme un chien, puis lui se cachait en dessous de la galerie chez eux. Alors, quand on est élevé de même, pensez-vous qu'on va grandir avec un équilibre mental qui n'est pas trop pire? Ce gars-là souffrait beaucoup. Il a accepté le Seigneur, je le sais. J'ai quand même vu des méchangements. Mais il y avait une lutte incroyable, ce gars-là. Le 1er janvier 2006, je suis chez mes parents, c'est le jour de l'an. Je reçois un appel téléphonique chez mes parents. C'était comme Jean-Pierre Dupont qui m'appelait pour me dire que ce chrétien-là était mort. Il était décédé. Moi, j'ai tout de suite fait le rapport, bien, ça, c'est la récolte de la chair. Semer dans la chair et dans la chair, on récolte la corruption. Le mot veut dire désintégration, dégénération et la corruption ultime, la mort. C'est mon opinion, là. Je ne suis pas en train de dire que c'est biblique, là, mais c'est quand même ce que je crois qui est arrivé à ce frère-là. Pourquoi? Parce que ce frère-là n'avait aucun témoignage. Il disait qu'il était croyant, il venait à l'église, moi je le croyais, parce que j'ai quand même vu, j'ai quand même passé des heures avec lui pour voir qu'il y avait un véritable combat. Mais quand tu es plus une nuisance qu'une aide, ça peut arriver que le Seigneur dise, viens-t'en, c'est qu'à la maison. Parce que là, sur la terre, tu ne fais plus rien de bon. Ça, c'est une interprétation personnelle, mais je pense que je ne suis pas complètement dans le champ en disant ça. Maintenant, il faut faire une application pour nous-mêmes. Qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je sème dans ma vie? Certains sèment pour la chair puis se questionnent à savoir pourquoi ils ne récoltent pas la sainteté. Une vie qui produit du fruit pour la gloire de Dieu. Si on simplifie la chose, je peux vous dire que la sainteté dans la vie chrétienne, c'est une récolte. Il a fallu que tu sèmes avant. C'est irréalisable pour les incroyants parce qu'ils sèment, uniquement par la chair et c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais comme croyants, pourquoi est-ce qu'on vivrait de cette façon-là? En plus qu'on connaît les conséquences. Galates 6, 8, c'est écrit, « 8b, là, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Il faut comprendre ici que la vie éternelle ne fait pas allusion au ciel. Mais la pleine bénédiction contenue dans le salut, c'est-à-dire ce qu'on lit dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, celui qui sème par l'esprit, c'est ça qu'il va récolter. Galates 5, 9, on lit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Il y a un petit mot là, « si ». Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, à condition que. Alors, à ce point-ci, plusieurs des Galates, puis nous-mêmes, on peut se questionner à savoir, écoute bien, là, j'ai semé par l'esprit, j'ai semé le bien, quand la moisson va-t-elle venir? C'est un petit peu comme je vous le disais tantôt. Là. C'est ce que le verset nous dit. Vous pouvez avoir depuis des années semé par l'esprit, servi les autres, fait du bien, exercé fidèlement un ministère, mais vous vivez encore des moments difficiles. Surprenez-vous pas que de ça. Ne vous relâchez pas. Au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. C'est le temps que Dieu va avoir choisi. C'est la saison de Dieu. On ne doit pas agir comme des enfants voulant, comme je vous disais tantôt, semer et récolter le même jour. Vous ne pouvez pas récolter le jour même que vous avez semé. Ça prend du temps. Il faut que le temps agisse. Il faut que vous ayez prié entre-temps. Et le Seigneur va faire son œuvre. Dans le relâchement, ce qui peut s'installer, c'est la semence pour la chair. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Galates 6, 9 « Ne nous lassons pas de faire le bien. » 2 Jean 8 « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Les attitudes du fruit de l'esprit doivent se transformer en action. La vie chrétienne, comme je vous disais tantôt, c'est un combat continuel. Moi, je ne vous dirai jamais que la vie chrétienne, c'est une belle vie, mais c'est une vie difficile. Mais c'est une belle vie. Qui nous dit qu'à la fin de notre vie, on s'en va au ciel, voir notre bien-aimé Sauveur. Dernière application, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Occasion ici, ça ne veut pas dire que la foi que ça passe. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, ou bien encore, pendant que j'ai l'opportunité de faire la foi que ça passe, c'est pas ça que ça veut dire. Occasion ici, ça veut dire la saison ou la période. La période entre le jour où j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ et le jour où il va venir me chercher. À date, moi, ça fait 46 ans. Alors, pendant cette période-là de 46 ans, ça peut durer encore plus longtemps que ça, mais pendant cette période-là, John Wesley a déjà dit que ceci. Faites tout le bien que vous pouvez, de toutes les manières que vous le pouvez, à tous les gens que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. C'est ça l'occasion. Tous les moments que vous pouvez, à n'importe qui, faites du bien. Vous allez récolter selon ce que vous allez semer. Dernière phrase que je voudrais qu'on retienne. Si c'est la seule chose que vous retenez du message, merci Seigneur. Rappelons-nous ceci donc. Tous les croyants ont ce privilège, les croyants. On se privilège de marcher pour et par l'Esprit. Mais c'est également leur responsabilité de le faire. On a un privilège, mais on a une sérieuse responsabilité. Et si on ne tient pas compte de cette responsabilité et qu'on ne sème pas selon l'esprit, mais qu'on sème plutôt selon la chair, vous allez récolter quoi? Les fruits de la chair. Croyants? Jacques s'adressait à des croyants. Alors, j'espère que la grâce du Seigneur va nous parler tellement qu'on puisse se rappeler de ce principe-là, qui, j'espère, ne sortira plus de votre tête. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Prions. Oui, notre Dieu et Père, on est tellement ébloui lorsqu'on lit ta sainte parole par les propos qui sont souvent difficiles à comprendre, mais bien souvent, bien plus souvent faciles à assimiler aussi et à comprendre. Seigneur, on veut te remercier pour ce principe que toi-même tu veux installer dans chacun de nos cœurs et nous rappeler que notre conduite va produire du fruit et que ce fruit doit être pour ta gloire, pour te glorifier, toi le seul vrai Dieu. Et c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on veut te remercier, ô Dieu. Amen.